À Libre-Échange, aujourd'hui, on va parler de l'ouragan ou la tempête post-tropicale Dorian, mais on va aller plus loin que ça parce qu'on se pose des questions donc un peu sur l'origine des ouragans. On est en pleine saison, là, des ouragans, c'est débuté. Et il y a quand même des particularités avec Dorian qu'on a eues ou qu'on a vécues qu'on n'a pas vues auparavant. Alors, pour en parler, Alexandre Parent d'Environnement Canada est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bien alors, Dorian, quand même, c'était un ouragan quand même assez violent. Qui était assez important hein, cette année parce que là, on est dans la saison des ouragans. Là. Généralement, donc, c'est un ouragan qui était quand même jugé important.
Effectivement, ça a été ce qu'on appelle un ouragan majeur. Quand on atteint ouragan catégorie 3, il y a 5 échelles là, dans la catégorie des ouragans basées sur la vitesse des vents maximales, donc des vents soutenus, non pas uniquement des rafales. On pourra en reparler un petit peu plus tard de la différence là, quand on arrivera justement au quand Dorian a atteint les provinces de l'Atlantique et même le Québec. Mais donc quand on a des ouragans catégorie 3, 4, 5, donc ce sont des vents de plus de 200 km/h, eh bien on parle de d'ouragans majeurs. Et effectivement, c'était le premier de la saison, majeur par son intensité, mais également par sa dimension. Quand elle était tout juste au large de la Floride, là, qu'elle touchait vraiment les Bahamas, c'était un ouragan d'une très grande ampleur. Les ouragans n'ont pas tous la même forme ou également la même superficie. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est un ouragan qui va marquer pour quelques années parce qu'ils avaient certaines particularités.
Bon, les ouragans, on les voit souvent lorsque ils sont déjà justement démarrés ou ils ont de une certaine ampleur. On voit ça dans les Caraïbes. Mais comment se forment les ouragans? Le début de tout ça, ça se fait où? En tout cas, vous allez nous le dire. Moi, je ne savais pas du tout. Mais ça débute pas dans l'eau comme tel. Alors, ça vient d'assez loin quand même, là.
Effectivement, donc la température de l'eau est l'ingrédient principal et l'essence de ces systèmes tropicaux, mais la naissance de la grande majorité de ces tempêtes viennent vraiment de l'Afrique. Donc, ce sont des zones d'orage qui sortent vraiment du désert africain, qui s'amènent sur l'Atlantique, tout juste au nord de l'équateur. Et donc, ces orages qui se déplacent au-dessus d'eau chaude continuent de se former. Et également avec, disons, la rotation de la Terre, il y a une certaine rotation qui est induite à ce développement d'orage. Et tranquillement, donc c'est sur plusieurs jours, la tempête va s'organiser, va se former. Ça prend des eaux là au moins de 27 degrés Celsius en termes de température de surface. Quand on a des eaux plus froides, il n'y a pas assez d'énergie pour soutenir ce genre de système, donc un développement tropical. Et là, tranquillement, en suivant les alizés, donc ce sont des vents d'ouest en est, les tempêtes, les ouragans vont s'approcher, disons, des Amériques. Et quand on parle de trajectoire, souvent, ça va suivre, passer tout près le long des Caraïbes. Et là, il y a comme deux routes principales. Il y en a une où beaucoup de tempêtes vont passer tout juste au sud de la Floride, s'en aller vers le golfe du Mexique. On se rappellera Harvey en 2017 qui avait été catastrophique pour le Texas. Donc, c'était une tempête qui remontait du golfe du Mexique, mais elle avait longé les Caraïbes auparavant pour passer tout juste au sud de la Floride. Et sinon, il y en a beaucoup qui vont courber vers le nord, justement, près de la Floride pour passer à travers ou juste à l'est de la Floride, comme ce fut le cas pour Dorian, et remonter tranquillement vers le nord et parfois même toucher, disons, le territoire canadien.
Bon, les Bahamas ont été les plus touchés, avec des vents qui étaient soutenus là, de plus de 200 km/h. Hein?
Oui, effectivement. Et ce qui a causé beaucoup de dommages également aux Bahamas, c'est que l'ouragan Dorian a pratiquement fait du surplace là, sur une période d'environ 36 heures. Donc, il y a les vents qui causent des dommages, mais également la pluie. Donc, les pluies torrentielles qui ne cessent pas vont avoir tendance, justement, pour la plupart des infrastructures, à rendre le sol encore moins stable, donc à déstabiliser tout ça. Et on gardait des vents et de la pluie là pratiquement sans arrêt. Donc, c'est vraiment ce qui a causé une combinaison de ces deux facteurs là qui ont causé les dommages importants là, qu'on a vus du côté des Bahamas. Sinon, le long de la côte américaine, les dommages n'ont pas été trop importants parce que la tempête est quand même restée au large, mais il y a quand même eu des pluies très, très importantes, de fort vent également.
Oui, parce que vous parlez du déplacement. Habituellement, ça se déplace à une certaine vitesse, là, les ouragans?
Oui, il y en a qui se déplacent un petit peu plus rapide que d'autres, mais souvent, quand elles vont remonter vers le nord, le long de l'Amérique du Nord, là, ils vont prendre un peu de vitesse. Il y a différentes raisons pour lesquelles ces systèmes-là vont prendre de la vitesse, mais la principale étant que à nos latitudes, donc ce qu'on appelle les latitudes moyennes, donc quand on monte vers le nord, eh bien, le courant jet polaire, les vents en altitude sont plus intenses et ces vents-là vont avoir une influence sur le développement et la trajectoire de ces systèmes. Si on revient à Dorian, c'est vrai que c'est particulier un ouragan ou une tempête post-tropicale qui traverse vraiment la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. Dorian a passé littéralement au-dessus des îles de la Madeleine avant de se diriger vers la basse côte nord. On peut pas dire...
C'est pas normal. C'est particulier cet aspect-là parce que ça se voit très rarement la trajectoire qu'a connue Dorian, justement, comme vous venez de le dire, là, traverser carrément la Nouvelle-Écosse, les îles de la Madeleine et la basse côte nord, parce qu'habituellement, la tempête post-tropicale, qu'on l'appelait comme ça, et on va en parler tout à l'heure, mais donc elle va plutôt bifurquer vers l'est, là, c'est ça?
Oui, c'est vrai. Il faut retourner, par exemple. Earl, en 2010, avait eu une trajectoire qui ressemble beaucoup à Dorian. Sinon, il y avait eu Juan en 2003, également Kyle en 2008. Donc, on voit que c'est peut-être à tous les 4, 5, 6 ans qu'on voit ce genre de trajectoire. La raison pour laquelle c'est une trajectoire un peu particulière, la grande majorité de ces systèmes vont demeurer au sud de la Nouvelle-Écosse, parfois apporter de bons vents, des pluies intenses également pour la Nouvelle-Écosse, mais ils vont demeurer au sud et vont s'en aller vers l'Atlantique Nord. Par contre, Dorian, vraiment, avec sa trajectoire à travers la Nouvelle-Écosse et le golfe du Saint-Laurent, c'est vraiment relié à de l'air un peu plus frais qui s'amenait des prairies. Et avec cet air frais-là, bon, il y avait une ondulation, pardon, dans le courant jet. Et le courant jet polaire le remontait du sud vers le nord, juste en avant de cette masse d'air froide-là. Donc, c'est vraiment le synchronisme entre cette ondulation du courant jet et la tempête tropicale qui remontait le long de la côte. Si le synchronisme avait été différent, par exemple, si cette ondulation du courant jet avait été 2-3 jours avant ou 2-3 jours après, fort probablement que Dorian aurait suivi une trajectoire plus normale, donc au sud de la Nouvelle-Écosse. Donc, on voit que c'est un synchronisme entre la tempête et entre également ce qui se passe en termes de vent en altitude. Donc, c'est pour ça, parfois, que ça demeure quand même relativement difficile à prévoir en termes de trajectoire. Donc, on se demandait, par exemple, samedi matin, est-ce que ça va passer sur les îles de la Madeleine ou un peu plus à l'est? Il y avait une certaine incertitude, quoi qu'on savait qu'elle allait traverser le golfe du Saint-Laurent. Mais il faut comprendre que c'est cette interaction-là, justement, entre les vents en altitude et la tempête qui dicte un petit peu sa trajectoire.
Bon, on parlait d'ouragan et après ça, ça devient une tempête post-tropicale. Parlez-moi un peu de cet aspect-là. Donc, un moment donné, on disait ben, peut-être que ce sera encore un ouragan rendu aux îles de la Madeleine. Là, finalement, c'était une tempête post-tropicale, mais on avait quand même des vents qui ressemblaient à un ouragan de type 1. Démêlez-nous un peu avec ça.
Oui. Ben, quand on parle ouragan catégorie 1, on parle de vents soutenus à 119 km/h, donc disons 120 km/h. Ce n'est pas des vents qu'on a connus, même pas non plus du côté de la Nouvelle-Écosse. Et on a eu des vents jusqu'à 140 du côté de la Nouvelle-Écosse, mais c'était des rafales. Ce n'était pas les vents soutenus. Donc, quand on parle d'intensité d'ouragan, on parle de vents soutenus. Donc, dès qu'elle s'est approchée vraiment de la Nouvelle-Écosse, elle a été rétrogradée à tempête post-tropicale. Quelle est la différence entre un ouragan et une tempête post-tropicale? Il faut comprendre que un ouragan, c'est une masse d'air, je répète le mot encore, tropical, mais c'est très important dans la définition. Donc, c'est de l'air chaud, de l'air humide. On ne pourrait pas, là, par exemple, tracer un front chaud, un front froid sur un ouragan. C'est un système avec des caractéristiques au niveau de la température et de l'humidité qui sont les mêmes partout dans la tempête. Par contre, quand elle se déplace vers le nord et qu'elle commence à interagir, justement, avec, tantôt on parlait d'une ondulation du courant jet, donc un peu d'air froid, eh bien là, c'est cet air froid-là qui s'introduit à l'intérieur du système tropical. Donc, le système qui part d'un cœur chaud, si on veut, là, où on parle de l'œil de l'ouragan, Quand ça arrive à nos latitudes, souvent cet œil-là n'est plus vraiment visible parce que justement l'air froid s'est introduit. Et là, la tempête perd un peu de sa symétrie également, n'est plus parfaitement circulaire. Donc souvent, c'est cette transition-là, donc on va appeler une transition d'un ouragan vers un système post-tropical. C'est ce qu'on a connu là, quand la tempête était tout près des côtes de la Nouvelle-Écosse. Donc souvent, ça veut dire également qu'il y a un certain affaiblissement, quoique dans les premières heures, même on a vu là, cet air froid-là, il est venu réénergiser la tempête. Donc pendant quelques heures, les vents ont regagné en intensité, mais on peut dire vraiment que ce qui a touché la Gaspésie, les îles de la Madeleine, même les provinces de l'Atlantique, avec Dorian, c'était plutôt catégorisé tempête post-tropicale pour ces raisons.
Et bon, parlez-nous un peu de chez nous. Donc, c'est les îles de la Madeleine qui ont été plus touchées, la Gaspésie, les vents. Quelles ont été la fenêtre, là, finalement, où c'est passé?
Oui, donc, du côté des îles de la Madeleine, c'est vraiment là, sur le territoire québécois, où, disons, les conditions météorologiques ont été les plus périlleuses. On a eu une rafale observée. On peut dire qu'on a eu des vents soutenus à 90 km/h durant plusieurs heures, mais on a même eu une rafale observée à l'aéroport, mesurée, je devrais dire, à 120 km/h. Gaspésie et de la Madeleine, 45 à 55 mm de pluie sur pratiquement tout secteur. Par contre, aux îles, vraiment, c'est l'onde de tempête et les vagues. Donc, ce qu'on appelle une onde de tempête, c'est vraiment le rehaussement du niveau de l'océan qui est dû à la tempête, donc dû à cette zone de basse pression. Et c'était environ d'un mètre. Donc, juste l'arrivée de la tempête, si on ne tient pas compte des vents, ça a amené un soulèvement de l'eau là, autour des îles de la Madeleine d'un mètre. Et par-dessus tout ça, on ajoutait des vagues entre 4 à 7 mètres. Là, ça peut dépendre justement de la forme des différentes plages, également de l'orientation. Mais assurément qu'il y a eu des vagues là, qui ont approché les 7 mètres. Donc, vous avez une hausse du niveau des eaux d'un mètre, plus des vagues. Donc, déferlement de vagues, érosion des côtes. Ça s'est produit beaucoup là, du côté des îles de la Madeleine. Du côté de la Gaspésie, les vents étaient un petit peu moins forts. Aéroport de Gaspé, une rafale à 83 km/h, Cap d'Espoir 105. Donc, c'était plutôt dans le 80 à 100 km/h là, du côté de la Gaspésie. Il y a également eu des bonnes vagues, mais pas... rien de comparable là, à ce qu'ont connu les îles de Madeleine à ce moment.
Bon, ben voilà pour notre cours 101 ouragan. C'est intéressant parce que là, il y en aura d'autres. La saison commence et on va suivre ça. Et bon, on verra évidemment par après chez nous comment ça va se transposer. Mais merci beaucoup pour nous avoir fait un beau portrait de tout ça et très intéressant. Alexandre Parent d'Environnement Canada, merci de votre participation.
Merci.
Ça fait
plaisir. Au revoir.